Toute cette semaine, Divergence vous propose de partir à la découverte du design. Nous sommes allés à la rencontre des designers montpelliérains dont la démarche nous emmène bien loin des pages de Elle Magazine, de Stark et de l'image que nous pouvons généralement nous faire de cette discipline. Ils se sont regroupés, pour la plupart, au sein d'Indigodoc, une association ayant pour but de promouvoir à Montpellier le design auprès du grand public. Pour le premier volet de cette série qui en comptera 5, nous leur avons demandé de définir le design de façon générale, mais aussi au travers des spécialisations qui sont les leurs. Plonger au cœur d'une discipline qui a fait de l'observation de l'homme et de son environnement sa matière première.
Le design, d'abord, est une science, une activité, un métier, qui est un métier qui fait appel à de l'empathie.
Thibaut Desombres, président d'Indigodoc, designer spécialisé dans le mobilier et l'ensemble des objets liés à l'habitat.
Dans le sens que nous réfléchissons aux objets, à la conception d'objets, de tout ce qui peut aider à mieux vivre pour l'humain, dans son cadre personnel, dans son cadre plus large de la société. On a une vision un peu sociologique des choses, on a une vision un peu marketing aussi des choses, et nous avons une vision aussi un peu de faisabilité, de technique des choses. C'est-à-dire que les champs d'application du design sur lesquels on nous attend ou on nous appelle se sont là très fortement élargis depuis les décennies récentes. Et c'est assez surprenant et ça montre bien que notre transversalité, notre vision pointu tout en étant global, est quelque chose qui nourrit et peut apporter en tout cas de vraies réponses. Contrairement à ce qu'on peut toujours imaginer, c'est que le designer fait des formes, des dessins, ben c'est pas du tout. C'est la finalité d'une réflexion en amont, qui est une observation permanente et des questionnements sur pourquoi faire une chaise et comment la faire, par exemple, et pourquoi et comment apporter quelque chose de différent, voire de mieux. Venant d'un monde de savoir-faire, de menuiserie, d'artisan, le mot design, pour moi, s'associe avec une notion de fabrication en série, de quelque chose dans lequel je n'avais pas, moi, la nécessité de maîtriser le côté réalisation. Et en me libérant, entre guillemets, de ce côté réalisation, ça m'a amené à plutôt me concentrer sur, justement, pourquoi une chaise de plus et comment, etc., etc. Je ne cherche pas à poser plus que ce qui est ma simple sensibilité par rapport à une problématique.
Vous pourriez essayer de me décrire une de vos chaises, justement,
d'en
décrire une.
Alors, je ne sais pas laquelle vous voulez que je décrive. Allez, on va jouer le jeu.
Celle-ci ?
Oui, la chaise Mana.
C'est une chaise qui associe deux choses. Alors d'abord, elle est en une seule matière, donc monocouleur, monomatière. Et elle associe une espèce de contraste intéressant, dans le sens que quand on la regarde de côté, on est sur un dessin assez lyrique, assez fluide, tout dans de la courbe. D'ailleurs, c'est presque une relecture d'un travail de chantournement, c'est ce qu'on dit, de certaines chaises Louis-Philippe.
D'accord.
Ne perdons jamais de vue que j'ai une formation d'ébéniste. Et en ça, décidément, plus j'écoute Paulin, plus je me dis, mais lui, il a fait le style chez Camando, moi je l'ai fait chez les Compagnons. Et je l'ai travaillé à vraie grandeur en dessin, mais vu de côté. Et ensuite, quand on la voit de face, elle est rythmée par cette vibration de lattes, qui sont des petites bandes de bois, et le tout permettant de faire une structure sur le plan construction extrêmement léger, puisqu'on n'a absolument rien, on n'a pas de renfort derrière. Et je me rappelle d'ailleurs que le chaisier qui l'a fabriqué me disait « mais il faut une grosse travers », je disais « allons-y, sans, et on verra comment ça se passe ». Alors pour l'anecdote, cette partie qui sont les lattes, c'est là où on pose ses fesses et son dos, donc c'est la partie confort. Et initialement, elle n'était pas conçue pour avoir des lattes. C'était une seule feuille de bois que je voulais toute simple et unie. Et pour des raisons de faisabilité, de technique et de capacité d'entreprise, on n'arrivait pas à la faire comme telle. Et j'ai fait cette grande galipette, on va dire, c'est-à-dire que j'ai complètement repris le projet un peu plus en amont et j'ai imaginé de mettre ces lattes plutôt que cette feuille de bois complète. C'est un exemple que je cite souvent, d'ailleurs c'est rigolo que vous l'ayez choisi, celui-là, auprès de mes étudiants, en disant, notre capacité est aussi de savoir rebondir par rapport à une contrainte. Le designer se régale de la contrainte, il joue avec.
Maréva Faucheux, designer de service et chef de projet à l'agence de développement du Languedoc-Roussillon.
C'est, on va dire, un mot à la mode, on a innovation, design, designer, etc. Et maintenant, le design s'accommode à toutes les sauces. Si on reprend maintenant, on va dire, le terme dans son historique, c'est un terme donc latin, designare, et qui va être utilisé notamment en Italie avec un architecte qui s'appelle Brunelleschi, qui le premier va utiliser ce terme dans sa pleine conscience, c'est-à-dire avec deux aspects qui est le dessin projeté mentalement, un dessin, et un dessin croquis, c'est-à-dire ce qu'il va imaginer, penser mentalement, et ce qu'il va retranscrire aussi sur un carnet. Pour les Anglais, si vous dites « je fais du design », ils vont attendre la suite, parce qu'en fait, pour eux, design, c'est concevoir quelque chose. Si vous êtes designer en musique, en environnement, en meubles, en objets industriels ou en ce qu'on peut appeler aussi le social design, c'est-à-dire du design de service ou du design de société. Le design, c'est avant tout un processus. Le design industriel, on imagine ce que ça peut être, hein, dessiner une locomotive, une voiture, une machine à coudre.
Comment on ferait la différence entre un designer industriel et un ingénieur, par exemple ?
Souvent, entre designer, on rigole. La différence entre designer et ingénieur, c'est quand un designer crée un objet, il n'a pas besoin d'y attacher un mode d'emploi. Un objet, il doit avoir un objectif d'utilité, de rendre service à un usager, à un individu. C'est pour cela que le designer, il est dans le processus du début à la fin, comme vous le dites, et surtout, il va s'attacher à toujours penser usage et usager. Le design de service, il va vraiment aussi s'attacher, en fait comme le design industriel aussi, mais à voir toujours en perspective justement à quoi doit servir. On a le service évidemment dedans, mais à quoi doit servir justement ce service. Par exemple, qui n'est pas allé dans une administration et a dû faire la queue ou prendre un ticket ou il faut prendre un rendez-vous ou alors c'est pas la bonne file, etc. Donc on a une perte de temps. Donc, pour ce faire, c'est de repenser le service, rien que l'accueil, par exemple, pour que les gens puissent s'orienter plus facilement, pour que les gens puissent comprendre facilement donc la différente signalétique. Donc le design de service va par exemple travailler sur l'accueil. Comment rendre cet accueil plus propice aussi pour les usagers, plus humain, voilà.
Youb Hubens, designer d'objets et lighting designer, cofondateur d'Indigodoc.
Il y a une définition de design qui est très chouette, qui s'était fait par Gio Colombo, un grand designer milanais des années 60-70, qui, je me souviens bien, qui disait que le design, c'est un métier qui rend les outils, qui rend la technique gentille. Et je pense que dans très peu de mots, à la fin, il capte assez bien l'essence du design dans le sens historique. Je pense que nous, design, on a une espèce de trait d'union. On a un métier où on met en relation beaucoup de gens qui ont des univers et des spécialités très différentes. Pour bien expliquer, un design, par exemple, d'être capable de parler avec le PDG, avec quelqu'un qui fait le prototype, avec le directeur commercial, avec l'équipe marketing, on parler avec quelqu'un qui vend son produit dans un magasin, de parler avec un artisan, donc des gens qui sont d'esprit et de formation et de mentalité très différents, et des classes sociales aussi très différentes. Il y a un mot en anglais qui s'appelle trickster.
C'est l'agitateur, c'est ça, le trickster?
Oui, le trickster, c'est extrêmement intéressant. C'est un personnage mythologique, avant tout, qui on retrouve presque dans toutes les cultures.
Ils sont transgressifs aussi, les tricksters, théoriquement.
Très, très.
Le designer aussi,
coquins,
il est transgressif.
Ils sont transgressifs, ils sont très, comment dirais-je, ils ont cette capacité justement de parler avec différentes personnes. Lighting design, c'est donner, comme un plasticien, forme à un éclairage notamment artificiel. Il y a des objets qui sont illuminés, ça peut être donc un théâtre, ça peut être un bâtiment, ça peut être un espace, ça peut être un objet. Par exemple, le projet qui est fait pour Hélénis, c'est trois bâtiments des appartements haut de gamme. Donc c'est une belle architecture, en plus c'est très organique. Et on a créé sur sur la façade, en tout cas sur le bord de balcon, donc sur trois étages, il y a une lumière continue, mais il change de, comment on dit techniquement, de Kelvin, donc il change d'intensité de blanc. C'est-à-dire, le projet, c'est est-ce que on peut accompagner les habitants à travers la saison. Il faut imaginer que l'été, on va avoir un blanc qui est très frais, donc un blanc avec beaucoup de bleu dedans, qui donne donc dans le sens psychologique et symbolique l'idée de fraîcheur. L'hiver, on va créer un blanc qui est très chaud, qui donne l'impression de chaleur. Design d'espace, interior design, souvent on applique aussi le mot décoration, donc on a un décorateur. Il y a une raison assez, comment dirais-je, historique, c'est parce que le design, par exemple en Allemagne, ou chez moi en Hollande, même en Angleterre, ça naît à travers de certaines philosophies. En Allemagne, c'est le plus connu, c'est le Bauhaus. Donc c'est le design et la fonction sont très très proches. En Angleterre, il y a le Arts and Crafts Movement, qui a plus ou moins le même objectif. Donc comment on peut faire des objets qui à la fin tout le monde peut acheter et utiliser. En France, le design naît par l'art nouveau, l'art déco. Donc déjà, on comprend entre l'art déco, c'est une autre logique. Un design n'est pas un décorateur. Un design, c'est pas quelqu'un qui fait des trucs qui coûtent cher. Et là, souvent, je sors mon Bic Cristal, qui existe depuis 1950, toujours en production, des milliards sont produits. Ça coûte 30-35 centimes aujourd'hui, c'est une ligne de plus de 2 km. Et je trouve un excellent exemple de qu'est-ce que c'est le design. C'est fonctionnel, ça dure dans le temps. Moi, je trouve personnellement assez beau. Ça fait un objet vraiment qu'on cherche de posséder. Donc le design, c'est plutôt pour moi ça que le côté décoratif. Pour moi, c'est plutôt un Bic Cristal que mon blanc.
Nathalie Pruneau, designer graphique, cofondatrice d'Indigo Doc.
Le design, c'est la conception, par la méthode du projet, c'est la conception d'objets, de produits, qu'ils soient graphiques, qu'ils soient du mobilier, qu'ils soient numériques, qu'ils soient maintenant le design de service, qui passe par le projet et qui intègre l'usager, c'est-à-dire que l'homme est au cœur du projet. Alors le design graphique, c'est pareil, voilà, c'est à partir d'une demande, d'une commande, d'une utilisation, d'un usage, d'un besoin. On va réfléchir à tout ce qui est communication visuelle en 2D. Donc la différence avec la publicité, parce que nous on nous assimile beaucoup à la publicité, c'est qu'on fait de la communication, de la promotion de messages. On ne se positionne pas de la même façon, c'est-à-dire que je vais réfléchir aux formes, aux couleurs, et pas forcément pour vendre un produit, mais pour magnifier ou symboliser ou suggérer un message. Quand il y a une exposition, quand il y a un événement, on va communiquer sur l'événement. Et on va suggérer aussi, graphiquement parlant, on va suggérer une ambiance. Quelque chose qui va permettre de comprendre de quoi on parle. Est-ce que c'est le design? Est-ce qu'on est dans les musées, est-ce qu'on est dans la peinture? Est-ce qu'on est dans la danse? Voilà, donc on va suggérer plutôt un univers. On est dans la sensation, déjà au niveau graphique. Et après, c'est en termes de message. C'est-à-dire, on va diffuser le nom d'un spectacle, les dates, le lieu. Voilà. Quand les gens viennent et vous disent on veut une affiche, par exemple, quelque chose de tout simple, une affiche pour un tel événement. Donc moi, en fait, ce que mon travail, c'est déjà de comprendre quel est l'événement, quelle est sa nature, à qui c'est adressé,
Donc ça, c'est la cible. Où est-ce que ça va être affiché? Est-ce que c'est vraiment une affiche dont ils ont besoin? En général, quand il y a une affiche, les gens n'ont pas forcément pensé, mais derrière, il y a une communication Internet. Donc il va y avoir quand même des supports numériques à produire à partir de cette affiche. Donc en fait, l'homme, c'est surtout son... Quand on dit l'homme, c'est l'homme avec un grand H et l'utilisation qu'il va faire des produits. En fait, on est vraiment dans des choses très très concrètes. Donc je suis designer parce que je vais réfléchir en amont au projet, je vais créer le projet et je vais le réaliser sur l'ordinateur. Mais je pourrais très bien ne pas le réaliser et le faire faire. Pour qu'il y ait du sens, il faut partir d'un message ou de quelque chose, d'un postulat. Et après, de toute façon, pour que ce soit transmis, que ce soit dans les objets ou dans la communication, il faut que ce soit simple. Il faut que ce soit sensible, que les gens soient touchés, soient intéressés. Et pour que ce soit efficace, alors moi j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas pour que ça soit transmis facilement, voilà, il faut être dans la simplicité, quoi. Alors après on nous dit oui, mais c'est trop design. Au début, quand on produisait des choses pour les institutions là, avec Indigo Doc, on dit oh, l'affiche est très design, trop simple, trop c'est pas assez grand public. Alors je dis mais qu'est-ce que c'est grand public et pour qu'est-ce qu'on doit servir au grand public en fait? Le designer graphique, en tout cas, il va pouvoir proposer un illustrateur parce que le dessin va correspondre au message, la photo parce que la photo, elle va être percutante et elle va montrer exactement le travail de l'architecte sur lequel on va parler. Voilà, c'est analyser vraiment toute la demande pour proposer après une palette en fait d'outils. Typographique, photographique, illustration, la couleur. Enfin, nous, on a une palette d'outils qui est assez large pour fabriquer des objets de communication qui soient le plus riches possible, en fait.
Samuel Adden, chercheur, plasticien et designer, concepteur, entre autres, d'une enceinte tactile.
Pour moi, le design, c'est une équation entre l'homme qui est au centre, son entourage, les relations interpersonnelles avec les autres hommes, et le contexte dans lequel il évolue. Ça, et la plupart du temps, on observe que y a un objet qui fait une sorte d'interaction entre ces éléments. Et j'étais allé rencontrer des gens qui travaillaient le son, mais qui n'étaient pas musiciens. Et j'ai découvert des gens qui travaillaient sur de l'éveil musical pour un public de sourds et malentendants dans un institut pour sourds à Paris, enfin en région parisienne. Et j'ai trouvé ça juste trop bizarre. Je trouvais que c'était un peu absurde. Et en fait, c'est pas bizarre du tout. Avec cette petite équipe qui essaie de travailler sur le développement d'une salle de musique adaptée, moi je me suis dit, ah mais en fait, je peux leur ouvrir un champ qu'ils connaissent pas du tout, que le design.
On peut essayer alors
Ouais, mais il faut que je cherche un câble là-dedans.
C'est une sphère en bois. Qu'est-ce que c'est comme bois? C'est magnifique.
C'est du cèdre.
D'accord, ça a une importance
dans cèdre. Parce que j'ai développé ça avec... j'ai pas mal travaillé avec des luthiers. Très régulièrement, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose de récurrent dans mon travail, c'est essayer de mixer, de faire une sorte de synthèse entre un savoir-faire ancestral et des nouvelles technologies. Parce que pour moi, c'est une sorte d'évidence de... Bon, on est là en tant que chercheur aujourd'hui, à un instant T sur cette planète, mais on se doit d'absorber toutes les recherches qui ont été faites avant pour essayer de les transmettre après. Mais j'aime bien ce côté synthèse entre quelque chose qui peut être intemporel, comme cet objet que j'ai conçu sur un principe de lutherie traditionnelle, avec que des finitions en matériaux naturels, des cols en peau de lapin pour... Enfin, qui sont vraiment des sortes de choses qu'on utilisait déjà il y a des siècles.
Je pense que déjà, le designer, c'est pas un inventeur. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui...
Moi, j'ai pas inventé, même si on a l'impression que je suis sur une sorte de pan hyper innovation. Moi, pour moi, c'est plutôt des synthèses. Je fais plutôt des oxymores entre plusieurs choses, quoi. Et peut-être deux choses ou deux savoir-faire relativement opposés, tu les combines ensemble, ils génèrent une nouvelle entité. Et cette entité, c'est par exemple ce que tu as entre les mains. C'est quelque chose... Je me sens pas inventeur quand je fais ça, mais l'idée que ça c'est un véhicule, c'est plutôt ça, puisqu'on ne l'a jamais vu. Mais en réalité, c'est, j'ai juste mis côte à côte deux choses qui ne communiquaient pas ensemble avant. Voilà. À mon avis, le designer, il conçoit des choses, mais il a quand même, c'est peut-être ça qui me plaît dans la philosophie de Pierre Paulin qu'on a, dont on parlait hier, c'est qu'il y a un moment où c'est les gens, les utilisateurs qui s'approprient la chose. Et moi, ça me plaît d'imaginer qu'il y a quelqu'un qui va être capable de, je sais pas, caler une porte avec cet ensemble tactile. Je trouve ça rigolo. Par contre, il faut que j'aille te chercher un casque anti-bruit.
J'ai l'impression que je vais faire de l'hélico.
Tu m'entends ?
Ouais, quand je soulève.
Ah, pardon. Écoute ça. Quand tu le décales de ta... Essaye de le mettre sur ton menton, sur ton front. Sur ton sternum, sur ton...
C'est fou parce que...
ta cage thoracique.
On n'entend pas la musique, on la sent là. C'est quoi le mieux ? C'est de le mettre contre les os ?
C'est ce que tu préfères. Tu peux le mettre pour caler la porte.
Quoi ?
Tu peux le mettre pour caler... Pardon.
Ah oui, dans la mâchoire, c'est impressionnant.
La mâchoire, c'est... En fait, les dents... Alors, ce qui est incroyable, c'est que la mâchoire, elle fait... T'as une partie haute du crâne et une partie basse. Et donc, en fait, c'est... Vu que quand tu fermes ta mâchoire, c'est un peu une sorte de combinaison de la partie haute et de la partie basse du crâne qui fait que... t'entends vraiment une sonceuse dans toute ta boîte crânienne. En fait, notre corps, c'est une sorte de... à la fois de résonateur et de filtre. C'est-à-dire que la vibration, en fonction de là où tu vas la poser sur ton corps, les sons ils vont être soit amplifiés, soit absorbés. Tiens.
Ah, donc, merci beaucoup d'avoir fait essayer. C'est génial.
Mais donc, tu vois, en théorie, si tu le mets contre... En fait, ça devient une sorte de... En fait, c'est comme, imagine un haut-parleur sans membrane. Et dans ce que je développe, c'est toi la membrane. Donc à partir du moment où tu te connectes à cette vibration, tu deviens une sorte de résonateur.
Merci à Thibaut Desombres, Mareva Faucheux, Youb Hubens, Nathalie Pruneau et Samuel Aden. Le second volet de notre série spéciale design portera sur la méthodologie du designer. On se retrouve demain sur Divergence FM.